Et la Bible, comment l'interpréter, comment l'appliquer à ma vie. Et tout d'abord, si nous nous approchons de la Bible, il faut se rendre compte du caractère et de l'essence de l'être de la Bible. Alors, sous le titre « L'inspiration de la Bible », nous lisons quelques versets. Tout d'abord, 2 Timothée 3,16, où il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc c'est une base pour pouvoir comprendre et sonder la Bible, le fait que la Bible n'est pas simplement un livre humain, mais c'est un livre inspiré de Dieu dans toutes ses parties. Toute écriture est inspirée de Dieu. D'ailleurs, ce qu'il faut bien réaliser, c'est le fait, ce verset ne dit pas que les écrivains étaient inspirés. Même que cela est juste, mais ce verset ne dit pas ça. Le verset dit que toute écriture, l'écriture elle-même, est inspirée. Et cela va beaucoup plus loin, parce que, pensons, un homme de Dieu était inspiré par Dieu. Bon, c'est une chose. Mais après, il a écrit ce qu'il a reçu par inspiration, et là, il aurait encore pu faire des erreurs. Mais notre verset va plus loin, en disant que ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Donc, cela nous assure encore plus que tout ce que nous lisons dans la parole vient de Dieu. D'ailleurs, le terme dans l'original, théopneustos, ici traduit par est inspiré, veut dire soufflé de Dieu, soufflé par Dieu. Donc, cela veut dire que lorsque nous parlons, il nous faut le souffle, n'est-ce pas, qui passe par par la cour, etc., et qui forme ce que nous aimerions exprimer. Donc, toute écriture est soufflée de Dieu, veut dire que lorsque nous lisons le texte de la Bible, c'est Dieu qui directement nous parle. En Matthieu 5, nous lisons à quel degré va l'inspiration de la Bible. Le Seigneur, dans le sermon sur la montagne, nous dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota où un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. » Alors, ici, le Seigneur insiste sur le iota de la parole. En hébreu, le iota est la lettre la plus petite. Donc, le Seigneur insiste sur la lettre du texte. Mais il va même encore plus loin. Il dit, il parle de trait de lettre. Ce terme un peu étrange pour nous en français, désigne donc des parties de lettres qui distinguent des lettres qui sont très semblables en hébreu. Par exemple, la lettre R et D, c'est presque la même chose, mais il y a un petit trait supplémentaire qui caractérise le D. Et il y a encore d'autres lettres qui, n'est-ce pas, lorsqu'on voit un texte hébreu, on a l'impression que tout se ressemble. Et surtout, quelques lettres sont très très proches, mais il y a des différences, donc des traits de lettres qui les distinguent. Le Seigneur va jusqu'à ce degré-là que... Donc, la dernière chose de la parole est inspirée, même les lettres qu'il faut distinguer. En plus, 2 Timothée 3,15 l'apôtre Paul dit à Timothée 3,15 « Sachant de qui tu les as appris et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. En parlant des Écritures de la Bible, l'apôtre Paul parle des saintes lettres. N'est-ce pas? De nouveau, ce terme nous montre qu'il ne s'agit pas en rapport avec l'inspiration que Dieu aurait simplement inspiré à peu près les pensées, les courants de pensée, mais la parole, l'apôtre Paul parle des saintes lettres. En plus, 2 Timothée 1, 20 nous montre que les écrivains, ils étaient inspirés. Sachons ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Ici, nous voyons les écrivains de la parole. Ils étaient des hommes de Dieu poussés par l'Esprit Saint. Ils ont écrit les choses qui leur étaient données par l'Esprit Saint, et ce qu'ils ont écrit maintenant est inspiré de Dieu. Pour finir, 1 Corinthiens 2, 13. L'apôtre Paul parle dans le contexte des révélations particulières qu'il a reçues, des mystères qui lui ont été révélés. Alors, comment il les a transmis, 2:13, desquels aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Donc ici, il parle, comment est-ce que nous avons transmis les révélations de Dieu, et en particulier des mystères du Nouveau Testament. Nous avons été enseignés par l'Esprit Saint dans l'usage des mots, des paroles qu'il fallait utiliser. Donc les moyens spirituels sont les mots enseignés par l'Esprit Saint pour communiquer la révélation divine. Donc, ça n'a rien à faire avec quels moyens il faut chanter, etc. Mais il s'agit ici des paroles que Dieu a enseignées aux écrivains de la Bible qui étaient inspirés par Dieu. Donc, même le choix des mots, cela nous prouve ce texte, était fait par l'Esprit Saint. Donc, cela nous montre, nous avons affaire un livre divin qui a été inspiré en trois langues. D'abord, en hébreu, la plus grande partie de l'Ancien Testament, et quelques petites parties en araméen. C'est une langue qui est parentée à l'hébreu, mais c'est une langue pour soi. Et le Nouveau Testament en grec. N'est-ce pas? Là, plusieurs personnes ont dit, donc des critiques, voilà, la Bible est écrite dans des langues humaines. Et cela veut dire que, par définition, ce qui est humain est faible, n'est pas parfait, donc la Bible ne peut pas être un livre parfait, parce que c'est transmis par des langues humaines. Mais lorsque nous réfléchissons, mais d'où viennent les langues humaines ? Eh bien, nous voyons déjà à Adam, Dieu lui a donné la langue. Ce n'est pas l'homme qui aurait inventé la langue. Adam a, dès le premier jour, reçu un système de langue complet. Il pouvait encore agrandir le vocabulaire, il pouvait faire de la poésie. Lorsqu'il a vu la première fois sa femme, il est devenu romantique. Et ce que nous avons dans le texte, c'est de la poésie. Alors, vous pouvez regarder à la maison ce qu'il a dit. Alors, la poésie, c'est, c'est la créativité en rapport avec la formation des phrases, n'est-ce pas? Mais le système de langue, il a reçu. Et plus tard, à Babel, Genèse 11, Dieu a donné plusieurs langues aux différentes familles qui étaient présentes à Babel, aux tribus. Alors, les langues sont un don de Dieu. Donc, les langues humaines sont en quelque sorte divines, parce qu'ils sont d'origine divine. D'ailleurs, seulement en parenthèse, parfois il y a des personnes qui disent parce que les langues humaines sont tellement imparfaites, alors pour pouvoir vraiment louer Dieu, il me faut une langue qui surpasse les langues terrestres. Mais les langues que nous avons sur la terre maintenant, ils sont de l'origine divine. Et ils sont aussi parfaits qu'ils sont capables à transmettre 100% la pensée de Dieu. Alors, nous avons la Bible écrite dans des langues humaines, mais qui sont d'origine divine. Ensuite, une deuxième étape, il faut bien distinguer entre inspiration, révélation et illumination. Alors j'explique de quoi je parle. J'ai encore une fois noté 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça, nous avons compris. Mais en Galates 1, verset 12, l'apôtre Paul dit qu'il a reçu des révélations par Jésus-Christ. Donc, une révélation, c'est donc une chose où Dieu s'est adressé à un homme particulier et il lui a dit des choses qui n'étaient pas encore connues avant. Donc, des révélations particulières. Lorsqu'on lit en 1 Corinthiens 7, nous avons là un contexte. Les Corinthiens avaient écrit une lettre à Paul pour lui poser des questions concernant le mariage. Des questions assez difficiles. Et dans ce chapitre 7, l'apôtre Paul répond à des questions précises et des difficultés précises en rapport avec la sexualité et le mariage. Et nous lisons au verset 10, une chose qui étonne. « Mais quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée du mari. » etc. Mais au verset 12, « Mais quant aux autres, je dis moi, non pas le Seigneur. Si quelque frère a une femme incrédule et qu'elle veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. » etc. Mais qu'est-ce que nous lisons ici? L'apôtre Paul dit, « C'est moi qui parle, pas le Seigneur. » Cette chose, c'est l'apôtre Paul qui dit. Alors, ça veut dire que ce verset n'est pas inspiré, n'est-ce pas? Et verset 25. « Or, pour ce qui est de ceux qui sont vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. » Tiens, de nouveau, je n'ai pas un ordre, mais je dis quelque chose. Mais finissons par le verset 40. Mais elle est, à mon avis, plus heureuse si elle demeure ainsi. Donc si la veuve reste veuve. Or, j'estime que moi aussi, j'ai l'Esprit de Dieu. Donc il conclut ce chapitre en mettant en évidence que lui possède l'Esprit Saint qu'il a inspiré. Et nous voyons, il y a eu quelques sujets où il n'existait pas une révélation particulière à cette chose. Mais l'apôtre Paul, comme apôtre et homme dirigé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, donne des réponses appréciées par le Seigneur. Comme nous avons lu au verset 25, par exemple. mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Dans la version allemande, c'est même un peu différent. Ça veut dire que je donne mon opinion et qui a été reçue par ou acceptée par le Seigneur dans ce sens-là. Alors, nous pouvons distinguer entre des révélations particulières et l'inspiration, parce que tout ce que l'apôtre Paul a écrit était inspiré par Dieu. Mais il n'y avait pas, pour chaque chose, une révélation particulière. J'explique encore par un autre exemple, l'évangile de Luc. Le docteur Luc a consulté et visité beaucoup de témoins oculaires. Luc 1, verset 5 et suivant. Et après ça, il a écrit son évangile. Donc, par exemple, pour décrire l'histoire où Marie et Joseph apportent l'enfant Jésus au temple à Jérusalem, Luc 2, il n'avait jamais reçu une révélation particulière pour connaître ces détails. Il a reçu ça par des témoins, donc oculaires. Mais tout ce qu'il avait écrit était inspiré par Dieu. Donc nous voyons que révélation n'est pas la même chose comme inspiration. D'ailleurs, en parenthèse, 1 Corinthiens 7, dans les études sur la parole de JND, il y a là une chose qui n'était pas juste. Parce que là, il n'avait pas fait la différence entre inspiration et révélation. Et il... vous pouvez relire le passage. Et donc, la valeur de l'inspiration pour ces quelques versets n'est pas assez évidente. Mais quand on fait cette différence, on voit que toute la Bible, chaque verset est inspiré, mais pas tous les détails se basent sur une révélation particulière. Mais en plus, on peut encore distinguer un troisième niveau, c'est l'illumination. Je lis le psaume 119, 130. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence aux simples. Alors maintenant, il s'agit de recevoir la parole écrite comme lecteur. Et pour cela, il nous faut de l'illumination. Donc, la parole est une chose objective qui existe, mais maintenant, il s'agit de l'entrée de la parole dans mon cœur. Et l'effet que cette parole fait sur moi, c'est l'illumination. Cette parole écrite donne au lecteur qui a le cœur ouvert de l'intelligence. Encore, Éphésiens 1, 18. L'apôtre Paul parle donc de la richesse de la rédemption en Christ. Et après, il commence à dire au verset 15 qu'il prie pour les Éphésiens, qu'ils puissent recevoir ces choses. Et voilà, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation » dans sa connaissance. Et maintenant, les yeux de votre cœur étant éclairés ou illuminés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et troisièmement, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Donc, la richesse de l'œuvre du Seigneur Jésus est écrite dans la Bible. et ici en particulier dans l'Épître aux Éphésiens. Mais il faut l'action du Saint-Esprit pour que ce qui est écrit puisse être compris par nous, les lecteurs. Et pour cela, il faut donc l'illumination par le Saint-Esprit. Donc voyons ces trois degrés. Révélation, inspiration, illumination. Ensuite, nous continuons par le titre « L'unité et la diversité de la Bible ». Nous lisons en Galates 4, verset 30. « Mais que dit l'Écriture ?» Après, nous avons une citation de l'Ancien Testament. En Jean 5, verset 39, le Seigneur Jésus dit aux pharisiens « Sondez les Écritures ». Alors une fois la Bible est appelée l'Écriture au singulier, une fois les Écritures au pluriel. Et cela nous montre le terme au singulier accentue le fait que la Bible est une unité qui est harmonique dans tous ses aspects. Mais l'expression « les Écritures » montre que ce livre a une diversité formidable. Déjà, ce livre a été écrit par des hommes inspirés, des douzaines qui ont contribué au texte biblique. Et d'ailleurs, chaque écrivain a gardé un propre style. Par exemple, nous lisons les écrits de Jean, l'apôtre, nous constatons que les phrases sont normalement très courtes. Lorsque nous lisons Paul, eh bien, Éphésiens 1, verset 3 à 14, ça forme une seule phrase dans le texte original. Il ne finit plus. Alors, tout un autre style, aussi le vocabulaire, on peut, par statistique, on peut montrer que Jean a un propre vocabulaire, Paul a un vocabulaire tout à fait différent, etc. Donc, les écrivains ont gardé leur personnalité. D'ailleurs, cela ne met pas en question la perfection de l'inspiration. Parce que qui a fait Jean? Qui a fait Paul? C'est l'œuvre de Dieu. Et même tout leur développement, dès l'enfance, était dans la main de Dieu. Nous voyons par exemple en Galates 1, comme Paul parle que Dieu l'a séparé dès le ventre de sa mère. Que donc, tous ces années où il ne connaissait pas encore le Messie, Jésus, alors c'était dans la main de Dieu. Il était préparé, donc tout son développement était dans la main de Dieu pour amener Paul au moment voulu par Dieu, à écrire l'Épître, par exemple, aux Éphésiens, aux Romains, dans le style absolument voulu par Dieu, mais qui correspond absolument à la personnalité de Paul. N'est-ce pas? Alors, c'est une unité, et ça montre la grandeur et la souveraineté de Dieu. En plus, ça nous montre aussi quelque chose de très important, comme différence entre le paganisme et le christianisme. Dans le paganisme, les inspirés sont des médiums, où la personnalité est mise de côté, où ça peut même aller jusqu'à la perte de conscience, où la conscience est diminuée, n'est-ce pas? Mais cela est absolument le contraire dans le christianisme. Jamais l'Esprit Saint met de côté notre conscience et ne diminue donc l'état de conscience, mais il nous utilise et il veut nous utiliser dans sa main comme nous sommes créés et voulus par Dieu. Donc une différence très notable qui a des conséquences aussi pour toute notre manière d'être des chrétiens. Ensuite, lisons Ecclésiaste 12, verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et les recueille comme des clous enfoncés. Ils sont donnés par un seul pasteur. Cela nous montre très bien l'être de la parole de Dieu. Il y avait beaucoup d'écrivains. Ils sont ici appelés les sages. Mais ils ont reçu tous ce qu'il fallait écrire par un seul pasteur, le bon berger, le Seigneur Jésus. Donc, de nouveau, ça montre l'unité et la diversité de la parole. Je répète 2 Pierre 1, 20 à 21. Là, nous avons déjà lu des hommes de Dieu poussés par l'Esprit Saint. Et je rends attentif à 1 Corinthiens 14, 7 à 8, où il s'agit des différents dons de Dieu pour servir. Mais ces dons-là sont comparés à des instruments musicaux. 14, 7 à 8. De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne rendent pas de son distinct, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Eh bien, ce qui est remarquable, il s'agit donc, dans le chapitre 14, d'apporter le message de Dieu par les différents dons de Dieu. Et ces dons sont comparés à des instruments musicaux qui ont des sons bien différents. N'est-ce pas? La flûte, c'est un instrument qui rend un son tout à fait différent de la trompette ou de la harpe, etc. Même, on peut jouer sur la trompette, sur la flûte et sur la harpe le même son, disons, là. Eh bien, nous distinguons, c'est le même son, mais c'est quand même pas le même son. Et c'est le fait, donc, pour les dons de Dieu, que chacun de nous qui transmet la parole de Dieu, il le fait d'une façon différente, qui a une couleur différente, même si nous transmettons le même message. Et c'est la même chose pour les écrivains de la Bible. Et ils transmettent 100% le message de Dieu, du seul pasteur, du bon berger, mais les différents écrivains ont des sons, des caractéristiques de sons différents. Différentes. Alors, cela nous pousse à voir donc les écrits de la Bible comme un orchestre qui est riche de différentes caractéristiques de son, mais qui ensemble sont harmonieux complètement, une symphonie à la gloire de Dieu, une symphonie qui nous révèle qui est Dieu, qui est l'homme, comment on peut être sauvé, etc. Et donc, ce fait de voir l'unité, l'écriture, et la diversité, les écritures de la Bible, cela nous pousse à voir donc des distinctions dans les textes, dans les différents textes. Par exemple, les livres de la Bible, on peut mettre dans trois groupes. Des livres historiques, comme par exemple la Genèse, qui nous raconte l'histoire sainte depuis la création, ou des livres prophétiques, comme disons le livre du prophète Ésaïe. C'est pas principalement un livre qui nous raconte ce qui s'est passé, mais ce qui se passera. Et ensuite, des livres poétiques, comme par exemple les Proverbes ou le Cantique des Cantiques, etc. Donc, ça nous montre déjà que les livres ont des caractères bien différents. Et cela nous aide pour l'interprétation. Par exemple, lorsque nous voyons que la Genèse veut être un livre historique, alors c'est un livre qui n'est pas principalement poétique. Donc c'est un livre qui veut nous raconter les faits comme ils étaient. Et cela nous aide par exemple à réfléchir sur les premiers chapitres de la Bible. Est-ce que nous avons ici une description symbolique de l'origine du monde? Eh bien, le texte est écrit en prose. Donc, la prose, c'est le contraire de la poésie. Donc, l'hébreu n'est pas poétique. C'est pas un hébreu poétique. Donc, ça nous montre l'écrivain veut nous raconter comment ça s'est passé. Pas seulement le fait que ça s'est passé, que Dieu a créé, mais il veut nous dire comment, dans le détail. Par exemple, pour un autre cas, dans le livre des Actes, au début nous lisons comme les premiers chrétiens avaient la possession ensemble. Alors on peut se demander, est-ce que tous les chrétiens depuis la première génération, devaient essayer de mettre ensemble leur propriété privée? Est-ce qu'il faudrait pratiquer une sorte de socialisme ou même communisme chrétien? N'est-ce pas? On pourrait prouver ça à partir des premiers chapitres. Et c'était l'expression de l'unité des cœurs. Il y a des chrétiens, et il y a eu des chrétiens qui ont argumenté sur cette base. Mais lorsque nous réalisons les Actes, qu'est-ce que c'est comme livre? Eh bien, c'est un livre historique qui veut d'abord nous raconter comment les choses sont en passé. D'abord, comment le Seigneur est rentré dans le ciel, comment le Saint-Esprit est descendu sur la terre et qu'est-ce qu'il a fait et comment les trois premiers décennies du christianisme et de la mission mondiale sont passées. Alors nous apprenons ça par le livre historique. Et en allemand, nous disons pas les actes, mais Apostelgeschichte. Donc les histoires des apôtres. Et voilà, donc nous apprenons comme les premiers chrétiens avaient les choses en commun, mais même dans ce même livre, on voit plus tard, acte 11, donc plusieurs chapitres après, chapitres 2 à 4, nous lisons comme ceux de l'assemblée d'Antioche, ceux qui avaient beaucoup, donnaient beaucoup aux pauvres en Judée, et ceux qui avaient moins, donnaient moins. Donc, on voit de nouveau, ils avaient des propriétés privées. Alors, pour savoir quelle est la pensée de Dieu, il faut plutôt regarder les lettres des apôtres. Là, nous avons des livres, on pourrait ajouter, des livres doctrinaux. Donc, la doctrine chrétienne se trouve particulièrement dans les lettres des apôtres et prophètes du Nouveau Testament. Et là, nous trouvons aucun commandement pour un socialisme chrétien. Mais nous lisons par exemple en 1 Timothée 6, comment les riches devaient se comporter comme les esclaves, donc ceux qui n'avaient rien du tout. Donc on voit que ce n'est pas un enseignement de Dieu de mettre ensemble. Donc on peut dire, voilà, un exemple où à une certaine époque c'était possible, et ça pourrait aussi être possible aujourd'hui, mais ce n'est pas un commandement. Donc, cette distinction, par ces exemples, je veux montrer la valeur et l'importance. En plus, il faut donc distinguer, en lisant le texte, on trouve des histoires, des chants, comme par exemple les psaumes, et pas seulement les psaumes, aussi le Cantique des Cantiques est un chant, et encore beaucoup plus. On trouve des rêves et des visions, comme par exemple la vision de Daniel des quatre animaux qui sortent de la mer, etc. On trouve des paraboles, mais aussi des commentaires, comme par exemple l'Épître aux Hébreux est un commentaire sur des passages de l'Ancien Testament. Nous trouvons des lettres qui sont adressées à une personne précise, ou à une assemblée précise, etc. Donc il faut bien distinguer cela. Pourquoi ? Par exemple, il y a souvent des personnes qui disent « Oui, mais la Bible... » donc, je parle des incrédules, et qui disent « Mais il faut faire attention pour l'interpréter, parce que tout d'abord, il faut voir que la Bible est symbolique. » Il faut dire, bien sûr, si on prend une parabole, alors le Seigneur indique, voilà, maintenant vient une parabole. Et lorsque nous lisons une parabole, nous savons que ce n'est pas une histoire qui s'est passée à un certain moment, mais c'est une histoire qui pourrait passer, ou qui souvent se fait de cette façon, mais ce texte ne veut pas raconter d'un événement précis. Eh bien, il faut voir là, particulièrement le symbolisme dedans, etc. Mais lorsque nous lisons, par exemple, du moment où Salomon a bâti le premier temple, ou lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ce n'est pas une chose symbolique. Ce sont des faits qui se sont passés. Donc il faut distinguer et prendre le texte comme il est présenté dans la parole. En plus, il faut voir le message particulier d'un certain livre. Lorsque nous commençons à lire l'Épître aux Romains, il faut nous poser la question, qu'est-ce que nous trouvons ici comme message particulier transmis par ce livre ? Et lorsque nous lisons le petit prophète Habacuc, alors il faut se demander, mais pour quel but, pour quelle raison a été écrit ce livre ? Ensuite, il faut essayer de trouver un verset clé. Normalement, on trouve des ou un verset qui exprime en noyau la pensée fondamentale d'un certain livre. Il faut essayer de trouver verset clé. Ensuite, il faut lire le livre en entier pour trouver le courant de pensée. Donc, il faut voir le courant de pensée d'un verset à l'autre pour voir la chaîne, mais aussi voir le courant de pensée d'un chapitre à l'autre. Et cela nous aide à mieux comprendre le détail. Mais lorsqu'on voit que des arbres, alors finalement, on ne voit plus la forêt, n'est-ce pas ? Donc, il faut voir et les arbres et la forêt. Ensuite, ce qui est très notable, les livres de la Bible ont toujours une structure. Et on peut trouver des structures qui sont absolument admirable. Donc des structures très, très, très complexes, simplement pour indiquer. L'évangile de Luc est composé de deux parties, et chaque partie est composée de cinq sous-parties. Et chaque sous-partie a donc une axe au milieu, et toutes les histoires dans cet axe se reflètent. Donc c'est une structure, c'est absolument surnaturel, oui. Et lorsqu'on voit cette structure, donc des histoires, toujours les histoires qui se reflètent, s'expliquent entre eux, où se trouve là une pensée fondamentale. Donc simplement pour encourager à trouver des choses qu'on ne voit pas à première vue, mais qui finalement doivent être fondées, donc il ne faut pas utiliser la fantaisie. Ensuite, il faut se demander, si c'est possible, qui a écrit un certain livre. Alors, lorsque nous savons que Paul a écrit telle et telle lettre, et c'est Jean qui a écrit telle et telle lettre, cela nous aide déjà, parce que nous savons, par les autres passages de la Bible, que, par exemple, Paul avait un service en premier lieu pour les non-juifs. Jean avait un service en premier lieu pour des juifs, des croyants parmi les juifs. Et des choses comme ça, ça nous aide, par exemple, à comprendre simplement un exemple qui me vient à l'idée au moment. Jean, 1 Jean 2, verset 1er. Verset 2. Et lui, donc Jésus-Christ le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Tiens, alors il y a... Est-ce que le monde entier sera sauvé? Oui, parce que le Seigneur est propitiation pour les péchés des croyants, et aussi pour le reste du monde. Mais comment Dieu peut encore condamner, finalement, ceux qui n'ont pas cru, si le Seigneur est déjà propitiation pour leurs péchés? Eh bien, lorsque nous pensons, Jean parle en premier lieu aux croyants du peuple juif, Christ est la propitiation pour nos péchés. N'est-ce pas comme le bouc du jour de la propitiation faisait propitiation pour le peuple d'Israël pour un an. Mais là, l'apôtre Jean dit, il est propitiation pour nos péchés. Mais pas seulement pour les croyants parmi les Juifs, mais aussi en vue du monde entier. Donc nous avons maintenant un sacrifice, plus un sacrifice pour une nation, comme dans l'Ancien Testament, mais un sacrifice en vue de tous les peuples et nations. Voilà. Ensuite, il faut différencier des périodes de l'histoire sainte. N'est-ce pas? Souvent on dit, ceux qui veulent voir les différentes périodes dans l'histoire sainte, ce sont des dispensationalistes, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose du dernier siècle et ça n'a rien à faire avec la Bible. La Bible nous parle simplement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Eh bien, lisons Colossiens 1, 26. Paul parle du mystère qui lui a été révélé et il explique ce mystère qui est maintenant connu était caché dès les siècles et dès les générations. Donc siècles ou des ou des périodes, on peut traduire. Cacher des siècles. Donc, dans le passé, avant l'apôtre Paul, il y avait des siècles dans l'histoire sainte. Des périodes en pluriel. Ensuite, en Éphésiens 1, 19, nous avons l'expression le siècle présent. Tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, c'est le siècle présent, mais aussi dans celui qui est à venir, donc un siècle futur. Par ça, nous pouvons au moins distinguer quatre périodes de l'histoire sainte, n'est-ce pas ? Des siècles, donc au moins deux, pour l'Ancien Testament, et un siècle présent et un siècle futur. Donc, nous voyons que la parole elle-même montre ces distinctions. Et cela nous aide à avoir des différences. Pourquoi, dans l'Ancien Testament, les croyants d'Israël avaient la promesse, s'ils sont fidèles, ils ne seront pas malades. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça? Un chrétien qui est fidèle ne devient pas malade. Non, ça ne va pas. Parce qu'il faut distinguer une période en rapport avec Israël et donc des promesses particulièrement données à Israël. Ce n'est pas forcément la même chose comme pour l'Église aujourd'hui. Ensuite, 1 Corinthiens 10, 32 parle d'Israël, donc des Juifs, parle de l'Église, l'Assemblée, et des Grecs, ou les nations. Il faut donc distinguer si quelque chose dans la Bible est adressé d'abord à Israël, ou à l'Église, ou aux autres peuples. Je vais vous donner un exemple. Dans la théologie du passé, déjà très tôt, on a dit Israël a rejeté le Messie, donc Israël comme nation n'a plus de promesses. Toutes les promesses que le peuple d'Israël a reçues est reçue maintenant par l'Église. Donc les bénédictions, pas les malédictions. Les malédictions ont laissé pour Israël. Bien sûr. Mais seulement pour montrer, avec ça, on a pris toute espérance du peuple d'Israël. Et, par exemple, il y avait les promesses que les Juifs dispersés dans le monde entier retourneront un jour dans leur pays, et ce sera la période où le Messie glorieux retournera. Alors on s'est dit, non, mais c'est pas une promesse à Israël. Et maintenant, ça s'est passé! Particulièrement au XXe siècle, des millions qui sont retournés de plus que de 140 pays, de tous les 5 continents. Alors il y a ceux qui restent fidèles à leur ancienne théologie et disent « mais ça n'a rien à faire avec ces promesses de la Bible ». Mais nous voyons comme les promesses se réalisent. Donc la Bible ne suit pas notre théologie. Ensuite, très fondamental, absolument central, au centre de toute l'histoire sainte se trouve Jésus-Christ. Jean 5, 39, le Seigneur dit, les Écritures, il parle de moi, il témoigne de moi. Donc, il faut chercher le Seigneur Jésus-Christ et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, le but final de chaque passage de la Bible est Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, un nouveau paragraphe, l'actualité présente de la Bible. Par exemple, Galates 4, verset 30, « Mais que dit l'Écriture ?» Et Paul parle d'une chose que Dieu avait dit à l'époque d'Abraham. Mais pourquoi il ne dit pas, mais que, qu'est-ce que l'Écriture a dit, dans le sens du passé, mais c'est un présent, pour dire que la parole parle maintenant, au présent. Donc même les choses que Dieu avait dit à Abraham il y a 4000 ans, l'Écriture, nous pouvons dire, l'Écriture le dit maintenant. Au Romains 10, verset 11, nous avons une citation de l'Ancien Testament. Romains 10, verset 11. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Mais c'est une citation du prophète Joël, donc très vieux, mais l'Écriture le dit toujours au présent à l'époque de Paul, des siècles plus tard. Donc ça nous montre la parole parle maintenant, ou encore Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, et voilà une citation du psaume 95, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais c'est un psaume très vieux, un psaume de David. Mais l'apôtre Paul dit, 1000 ans après David, il dit, comme dit au présent l'Esprit Saint. Donc par le même psaume, au présent à l'époque de l'apôtre Paul, l'Esprit Saint parle actuellement. Et cela est donc absolument important pour voir combien actuel est ce que la Bible a dit il y a des millénaires. L'Esprit Saint parle maintenant encore au présent par ses lettres, par ses phrases. Mais quand même, il faut faire une différence entre le premier sens du texte et son application. Donc, par exemple, le Seigneur Dieu a dit à Josué, « Sois fort !» Alors, lorsque c'est cité en Hébreux 13, et appliqué à nous, ce que Dieu avait dit à Josué est appliqué à nous. Donc, il faut quand même faire la différence de voir le sens premier était donné à Josué. Donc, un homme qui voulait suivre Dieu, avec tout son cœur. Et lorsque, dans le Nouveau Testament, en Hébreux 13, c'est appliqué à nous maintenant, il faut savoir, c'est appliqué à nous lorsque nous voulons suivre le Seigneur avec tout notre cœur. Donc, il faut d'abord rechercher à comprendre le premier sens et faire après l'application. Mais l'application n'est pas moins important ou plus faible que le premier sens. N'est-ce pas? Lorsque le Seigneur te dit aujourd'hui par cette parole à Josué, sois fort! Ça a la même force comme à l'époque où Dieu l'a dit à Josué. Mais quand même, pour comprendre bien la parole, il faut faire la distinction entre premier sens et application. Aussi, lisons la première aux Thessaloniciens, il faut voir la situation particulière de l'assemblée à Thessalonique. Cela nous aide à comprendre mieux les détails, mais après, appliquer à nous aujourd'hui. Ensuite, la disposition du lecteur est fondamentale. 1 Corinthiens 2, verset 14, nous explique. 'Or, l'homme animal, ou l'homme psychique, donc c'est un terme qui dessine l'incrédule. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, nous voyons que, en général, pour l'incrédule, c'est pas possible de comprendre la parole de Dieu. Il peut comprendre le message que Dieu lui adresse pour se convertir, mais c'est donc pas la bonne disposition pour comprendre la Bible quand on n'est pas converti. Mais nous lisons, « Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. » Donc l'homme spirituel, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit par la foi. Et celui est capable de comprendre la Bible, parce qu'il est capable de discerner les pensées de Dieu. Ensuite, nous lisons un troisième type d'homme, d'être humain, chapitre 3, 1. « Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant, encore vous ne le pouvez. » Eh bien, l'homme charnel est celui qui est croyant, qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui normalement dans sa vie, ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit, mais par ses propres convoitises. C'est l'homme charnel. Et ce n'est pas non plus une bonne base pour comprendre la Bible. N'est-ce pas? Ils n'ont pas pu recevoir de la viande. Voilà pour. Ensuite, la crainte de l'Éternel. Proverbe 1, verset 7. C'est le commencement de la sagesse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est moins connu aujourd'hui en général que dans des siècles passés. Donc une profonde crainte de Dieu, ce qui est aussi lié à un profond respect de la sainteté de Dieu. Donc, lorsque nous avons ce profond respect de Dieu et de sa parole, ça est le point de départ pour la sagesse, pour comprendre la parole. Ésaïe 66, verset 2, nous parle du respect profond de la parole. Le Seigneur dit, « Je parle sur celui qui tremble devant ma parole. » Donc, lorsqu'on a une telle attitude vis-à-vis de la Bible, on ne dit pas facilement, « Oui, mais c'est pas tellement important, c'est, etc. » Mais trembler de la parole, ça montre donc qu'on a une appréciation profonde que c'est Dieu qui nous parle par chaque verset. Et il faut payer un prix. Proverbe 23, ça on peut bien garder dans la tête. Achète la vérité et ne la vend point. La sagesse et l'instruction et l'intelligence. Achetez. Donc, on ne reçoit pas l'enseignement de la Bible simplement comme on lit un roman. Donc, c'est un problème de notre époque, n'est-ce pas? Chaque époque dans l'histoire a des tendances particulières. Et une des tendances aujourd'hui est la superficialité. Et qu'on aime recevoir les choses tout de suite, n'est-ce pas? Lorsque demain on voudrait faire un voyage, alors, bon, pas de problème, on va sur l'Internet. Et on peut encore recevoir un ticket, comme ça. Et lorsqu'on a un problème, le soir, on devrait avoir de l'argent. Mais dans le passé, les banques étaient fermées, pas de problème, on a une carte de crédit. Tac, on reçoit tout de suite. Et lorsque on reçoit des invités qu'on n'avait pas invités, quoi faire? Mais ce n'est plus le problème comme à l'époque d'Abraham qui devait aller tuer Génis et préparer tout. Non, Nous avons déjà tout dans le réfrigérateur. Et nous avons un appareil à micro-ondes. Tout de suite, on peut avoir ce qu'on veut tout de suite. Alors, c'est quelque chose qui a caractérisé la mentalité aujourd'hui, mais ça pose un problème dans les choses spirituelles. Il n'y a pas des appareils à micro-ondes. Etc. Donc, la vérité reste, achète. Il faut payer un prix. Et de l'argent, c'est du temps. Et le temps, nous n'avons pas. Ou on devrait dire, on a mis les priorités différemment, c'est ça. Alors, il faut investir du temps, il faut investir de la force, il faut travailler, il faut payer, mais ce qu'on a payé a plus de valeur. C'est pour ça, en général, c'est bien en Afrique de ne pas simplement donner les Bibles, mais les vendre à un prix qui peut être acheté. Parce que après, la Bible est plus importante pour ceux qui la reçoivent. Il faut payer. Et le psaume 119, verset 100, mettre en pratique la parole. C'est une clé. 119, verset 100. J'ai plus de sens que les anciens parce que j'observe des préceptes. Donc, l'écrivain dit, je mets en pratique et à cause de cela, je reçois de l'intelligence pour la parole. Donc, lorsque nous mettons en pratique, nous pouvons nous attendre que le Seigneur nous donne de nouvelles lumières, des nouvelles lumières pour comprendre la parole. Et c'est absolument possible, par exemple, quand sur un certain passage, on se dit, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce passage. Et pourquoi ? Ça se peut que le Seigneur nous ne donne pas l'intelligence parce qu'il sait que nous ne serions pas prêts à mettre en pratique ce passage. Et parce que le Seigneur nous aime, il ne veut pas que nous devenions des révoltés contre lui. Alors il ne nous donne pas la lumière sur un certain passage. Et nous pouvons dire avec certitude et avec vérité, moi je ne comprends pas ce passage. Alors, ça c'est une possibilité, n'est-ce pas? Il y a d'autres possibilités, pourquoi on ne comprend pas tel et tel passage? Mais, donc il y a donc un lien important avec la mise en pratique. Et je finis par des différents buts de la Bible. En citant 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Alors, l'écriture inspirée, ça ferme maintenant le cercle que nous avons ouvert au début. Avec quel but? Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Je donne des exemples pour chaque terme. Par exemple, enseigner, c'est un but principal de l'Épître aux Hébreux. Il nous montre l'enseignement sur la personne glorieuse du Seigneur Jésus, le Messie, le souverain sacrificateur, le médiateur, etc. Celui qui a accompli l'Ancien Testament. Enseignement. Convaincre. C'est bien illustré par l'Épître aux Galates. Les Galates sont devenus des légalistes. Mais lorsqu'on aurait dit « vous êtes des légalistes », ils seraient devenus... Oui, ils n'auraient pas aimé parce qu'ils ne croyaient pas. Alors, l'épître aux Galates doit prouver aux Galates qu'ils sont des légalistes. pour les amener à retourner de cette fausse direction. Donc, il fallait les convaincre, c'est-à-dire de prouver, c'est ça le sens dans l'original, de prouver qu'ils sont coupables pour pouvoir retourner. Corriger, on peut illustrer par la première aux Corinthiens. Il y avait pas mal de problèmes dans cette assemblée. Mais c'était quand même une assemblée de Dieu d'ailleurs. Des problèmes très graves. Mais il ne fallait pas leur prouver qu'ils avaient des problèmes. Ils le savaient. Ils se querellaient tout le temps, ils allaient devant le tribunal, etc. Donc ils savaient bien qu'ils ont des problèmes. Mais il fallait corriger, qu'ils mettent en règle les choses. Et ensuite, instruire dans la justice. On peut appliquer ou illustrer par l'Épître aux Romains, qui nous montre comment l'homme peut vivre comme étant juste, justifié devant Dieu. Donc c'est l'instruction pour vivre juste. Par la justice qu'on a reçue par la foi. Et tous ces différents aspects de la parole, buts de la parole, ont le but que l'homme de Dieu, donc celui qui suit Dieu avec tout son cœur, soit accompli, parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Voilà.
Alors, on va ouvrir un petit peu les questions. On a cité ces passages, l'écriture est inspirée de Dieu. La question que je me posais toujours, c'est est-ce que ces versets ne sont-ils pas appliqués aux écritures de l'Ancien Testament, car le Nouveau Testament n'existait pas encore à cette époque. Comment est-ce qu'on peut... Bon, moi j'y crois, c'est pas ça le problème, mais comment est-ce qu'on peut trouver un passage qui prouve l'inspiration du Nouveau Testament.
Oui. Alors, 2 Timothée 3, au verset 15, je lis depuis le verset 14, « Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Et que, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. » Alors, au verset 15, nous avons les saintes lettres. Et là, l'apôtre Paul parle de l'Ancien Testament, qu'il connaissait dès son enfance. D'ailleurs, le terme grec désigne particulièrement l'enfant qui est encore nourri, nourrissant. Oui, alors, on nourrissait peut-être jusqu'à 4 ans, mais ça montre à quelle époque il a commencé à apprendre l'Ancien Testament. Ça, en parenthèse. Mais le verset précédent, 14. « Mais toi demeures dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. » Là, il parle de révélation nouveau testamentaire. Et d'ailleurs... Le terme « sachant de qui » en français on distingue pas si c'est au pluriel ou au singulier, n'est-ce pas, si c'est une personne, mais dans l'original c'est au pluriel. De qui, donc de quelle personne il ne parle pas seulement de soi-même comme apôtre Paul, mais il parle d'autres personnes qui lui ont d'enseigner les choses du Nouveau Testament. Et après, nous avons seulement le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, cela, ce tout englobe des... N'est-ce pas, le Nouveau Testament n'était pas encore accompli à l'époque, mais englobe des révélations et des écrits Nouveau Testamentaire et 15, l'Ancien Testament. Et premier à Timothée, 5, verset 18. Car l'Écriture dit, « Du n'émulcellera pas le bœuf qui foule le grain. » Citation du Deutéronome 22. ouvrier est digne de son salaire. Citation de Luc 10. Avant, c'était Deutéronome 25. Luc 10. Et l'apôtre Paul utilise le terme que les Juifs ont utilisé pour l'Ancien Testament. L'Écriture. Pour le Deutéronome, la Torah. Et l'Évangile de Luc. Donc pour lui, c'était sur le même niveau l'Évangile de Luc. Et 2 Pierre 3, Pierre parle des écrits de Paul qui sont tordus par plusieurs comme les autres écritures. Donc déjà là, il met les écrits de Paul sur le même niveau comme les écritures. Et là, tu as déjà plus que la moitié du canon du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Les 14 lettres, ou si on veut 13, lettres de Paul, l'évangile de Luc. Donc nous trouvons l'enseignement aussi de l'inspiration du Nouveau Testament. D'autres questions?
Tu as beaucoup parlé d'inspiration. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur les apocryphes?
Oui. Alors, quand on parle des apocryphes, on parle des apocryphes ajoutés à l'Ancien Testament dans des éditions catholiques de la Bible, souvent, mais aussi d'autres. Donc, il s'agit de 14 livres qui sont ajoutés à la fin de l'Ancien Testament. Ces écrits ont été écrit après le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui était Malachi, vers 400 avant Jésus-Christ. Mais ces 14 livres étaient écrits avant le Nouveau Testament. Donc, dans cette période, nous appelons la période intertestamentaire. Les Juifs n'ont jamais reçu ces livres comme, même qu'ils viennent du judaïsme. Tous. Ils n'ont jamais reçu donc, le judaïsme officiel comme l'écriture. Et j'ai trouvé dans le Talmud deux fois le passage qui dit « Après la mort de Zacharie, âgé Zacharie et Malachi, le Saint-Esprit est parti d'Israël. » Donc, on était conscient que le Saint-Esprit n'agit plus de la même façon comme jusqu'à l'époque de Malachi. Dans un des livres apocryphes, 1 Maccabée 9, nous avons la description du temps, le temps difficile des Maccabées au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il est écrit, « Et il fut une telle tribulation en Israël qu'on n'a jamais eu depuis qu'on n'a plus des prophètes. » Intéressant. Et les apocryphes ne disent jamais « Ainsi dit l'Éternel » ou ne se considèrent jamais comme l'Écriture. Le deuxième livre des Maccabées, écrit par un autre auteur comme le premier, fini, ce n'est pas rigolo de toujours boire du vin ou de boire toujours de l'eau, mais parfois de l'eau, parfois du vin. Et ainsi, j'espère aussi que mon livre soit varié pour le lecteur. Donc, il ne veut pas être... il ne prétend pas de transmettre l'écriture. D'ailleurs, il y a des différents degrés parmi ces livres. Par exemple, le livre de Sirach. Vous dites Sirach? Sirach? Jésus? Sirach? C'est un commentaire qu'un rabbi a écrit, un commentaire pratique, comment mettre en pratique l'Ancien Testament. Mais il y a d'autres... passages qui sont des mythes, des contes de fées, rigolos ou même pas rigolos, par exemple, comme le dragon de Bel à Babylone, des histoires de contes de fées, on va parler de Daniel. Et il y a des livres qui sont historiquement très précieux, comme le premier livre des Maccabées. Ils donnent de l'information fondamentale sur le temps des Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas les mettre dans la même poubelle, mais l'Église catholique a, au concile de Trente, en rapport avec la contre-réforme, a dit « Anathème est celui qui n'accepte pas donc les apocryphes comme étant la parole de Dieu. » Et avec ça, ils ont maudit leur saint Jérôme, qui avait traduit la Bible en latin, vers 400, parce que lui, il les a aussi traduits, mais il ne les considérait pas comme la parole de Dieu. Alors, dans la réforme, puisque les réformateurs ont dit la parole seule, quand des conciles, quand des cardinaux, les papes ont dit quelque chose, ça ne valent rien du tout si ce n'est pas fondé sur l'écriture. Alors, l'Église catholique, à ce moment-là, devait essayer de prouver que c'est bon de prier pour les morts. Eh bien, c'est écrit en un Maccabée 12, un exemple comme ça. Devait prouver qu'on peut être justifié par en faisant les lois, etc. Et des choses qu'on trouve dans les apocryphes, alors ils étaient bien intéressés de pouvoir leur donner un statut d'inspiration, mais pour dire aux réformateurs, alors si vous dites la Bible seule, alors nous avons là aussi les apocryphes, la Bible, alors basez-vous là-dessus. Mais comment on peut, 2000 ans plus tard, encore dire, alors voilà, c'est ça la parole de Dieu. Et l'Ancien Testament a été confié à Israël, Romains 3, versets 1 à 2. Alors, c'était eux qui devaient reconnaître le canon de l'Ancien Testament. D'autres questions? Tu dois dire.
Alors, on va peut-être faire comme ça, on va peut-être avoir... Moi, je vais faire ça, on va encore chanter un moment.